Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert.
Bonjour à toutes et à tous, très bonne semaine à l'écoute de Sud Radio. On est ensemble jusqu'à vendredi, tous les jours, entre 10h et midi. On est le lundi 10, nous sommes le lundi 18 février. Il faut bien parler, vous avez vu, ça peut être préjudiciable. Oui. Gilles Gansman, bonjour.
Bonjour.
Vous allez faire attention. Rémi
Pernellet,
bonjour.
Bonjour Valérie.
Merci d'être là. Vous êtes irréprochable, Rémi.
Bonne journée, Gilles.
On va recevoir Michel Cotta et Robert Namias, deux grands journalistes, deux grandes voix qui publient Fake News aux éditions Robert Laffont. C'est un roman, mais un roman, un thriller politique. Ils en ont sous le pied, comme on dit. Ils connaissent pas mal de choses. Ils ont imaginé une histoire qui est totalement vraisemblable. On va en parler. On va en parler avec eux.
Et j'espère puis, que nous.
Toute ressemblance avec la réalité, etc. Et puis on va parler de. Alors c'est très particulier. C'est un reportage qui va passer ce soir dans Infrarouge, présenté par Marie Drucker. Marie Bonhomé, la réalisatrice, sera avec nous. Elle a suivi Mathilde Lévesque, qui est professeure de français à Aulnay-sous-Bois, et qui montre comment on peut intéresser ses élèves à la langue française, à débattre, à engager le débat et à leur faire comprendre que s'exprimer, ça peut changer beaucoup de choses. Je dis donc je suis, ce sera tout à l'heure. Et puis à 11h, on va revenir évidemment sur ce qui s'est passé ce week-end. On va poursuivre un petit peu le débat qu'il y a eu ce matin dans la matinale de Patrick Roger et Cécile de Ménibus. Est-ce qu'il faut que les Gilets jaunes fassent le ménage chez eux? Et puis cette attaque antisémite contre Alain Finkielkraut, qu'en pensez-vous? Est-ce que c'est une instrumentalisation politique qui est en train d'être faite? C'est en tout cas ce que dit Jean-Luc Mélenchon, 0826-300-300. On en parlera tout à l'heure. Et on commence avec les audiences de Rémi.
Sud Radio, le 10h midi, les médias, découvrons les audiences.
Alors Rémi, carton ou
pas? Oui,
carton
le carton de week-end, c'est pour TF1 samedi soir. 5 284 000 téléspectateurs et 27,1% de part de marché pour The Voice. C'était la deuxième semaine des auditions à l'aveugle. Alors c'est 300 000 téléspectateurs de moins que pour le lancement le samedi précédent, mais TF1 était largement leader des chaînes généralistes samedi devant France 3 avec le téléfilm policier Cassandre, 3 950 000 téléspectateurs et 18,4% de part de marché. C'était 100 000 de plus que la semaine dernière. Bon score. Puis en troisième position, samedi, France 2, 2 176 000 téléspectateurs et 11,2% de part de marché pour Les années bonheur de Patrick Sébastien. C'était la dernière de Patrick Sébastien.
Non, c'était pas la dernière, justement. J'ai cru aussi, mais c'était pas la dernière.
Alors c'était l'une des dernières, l'avant-dernière.
Oui, il a enregistré les deux dernières et le journaliste
du Parisien,
Michael Zoltobrodal, l'a suivi. Et moi, j'ai vu la fin de l'émission où il a dit on se retrouve pour la dernière.
C'était l'avant-dernière.
Écoutez,
c'est un 200 000 de moins que pour le plus grand cabaret qui était la semaine précédente. Patrick Sébastien est toujours aux alentours des 2 millions de téléspectateurs. On verra si pour la dernière, ça change un peu.
En tout cas, The Voice, c'est plutôt le carton du week-end.
Oui, c'est ça. Alors, même si en valeur absolue, c'est hier soir TF1, le film Tarzan qui a le record avec 5 778 000 téléspectateurs.
Mais le film du dimanche soir, bien.
Voilà, exactement.
Et The Voice, c'est vraiment bien avec Julien Clerc.
Oui. Aimait bien.
Moi, je suis surpris de Julien Clerc, en fait, de semaine en semaine, alors que j'étais plutôt dubitatif au départ.
Très bien. On va passer au gadin.
Le gadin du week-end, c'est pour C8, vendredi soir. Alors, seulement 383 000 téléspectateurs pour Vendredi Vérité de Patrick Sébastien.
Sabatier. Entre les Sébastien et les Sabatier.
Sabatier, avec un invité Patrick aussi, les Poivres d'Arvor. 100 000 de moins que le prime de Maxime Guény sur La Magie la semaine précédente, qui était déjà quand même un gadin. Donc, c'est un énorme flop pour ce qui était présenté comme un remake du Jeu de la Vérité. Mais en réalité, ça n'avait rien à voir.
Non.
Et puis alors, PPDA nous explique, je prends une madeleine tous les matins en hommage à ma mère et à Proust. Enfin, on croit rêver, quoi. C'est vraiment le jeu de la vérité.
Ouais.
Mais alors, double gadin, en fait, pour C8, parce que Balance ton poste, qui suivait, avec Cyril Hanouna, n'a réuni que 323 000 téléspectateurs pour la première partie, 200 000 pour la deuxième. En fait, c'est le plus mauvais score depuis le début de l'émission. Puis la semaine dernière, c'était déjà le plus mauvais score.
Oui, mais là, vous n'avez pas de locomotive, c'est un peu compliqué.
La semaine d'avant aussi, ça n'avait pas été formidable. Mais ce qui est
surprenant avec Sabatier, c'est que ce n'est pas du tout le projet que nous, on a eu en communication de presse. Vous savez, il devait être face à un panel, il devait être
en direct surtout, non?
Oui, face à des journalistes qui l'ont contredit dans un article. Il devait être face... Et tout ça n'a pas eu lieu. Il y a eu juste face à son entourage professionnel, mais c'est plutôt un professionnel amical.
Enfin, il n'y avait pas, y avait pas
sa sœur.
À sa sœur. Donc, il n'y avait pas,
alors, y avait pas vérité, de mise en danger. Il n'y avait pas vraiment de mise en danger. Bah, c'est-à-dire que,
franchement,
enfin,
quand on connaît un peu la vérité, je pense qu'il y en a quand même.
Il y en a eu très peu.
Ouais, il y en a eu très peu.
Vous auriez dû appeler.
Non, mais ce n'était pas l'ambiance qui était promise par Patrick Sabatier.
Bien sûr, avec tout le sel qu'on peut attendre d'un jeu de la vérité.
Absolument. Alors, après, ce que je pense aujourd'hui, c'est que cette émission, à mon avis, elle n'est plus possible. Parce qu'aujourd'hui, là, on est tellement dans l'univers de la communication et personne ne veut aller dans une émission où il y a des risques que c'est quasiment plus possible aujourd'hui, cette émission.
Possible. Et puis la surprise...
Et même la bonne surprise, c'est le très bon score du Palma Show sur TF1 vendredi. 4 115 000 téléspectateurs, presque 20% de part de marché. Le nouveau divertissement de Grégoire Ludic et David Marseille, ils étaient chez nous vendredi. C'est 1 100 000 téléspectateurs de plus que le divertissement d'Arthur la semaine précédente. Donc c'est quand même un
pari réussi pour TF1.
Oui, pour un concept qui était quand même audacieux. Donc
oui,
je trouve que c'est vraiment une réussite et puis on a envie de le saluer. Puis du coup, on sait qu'il y en aura d'autres puisqu'ils nous ont dit que s'il y avait une bonne audience, ils prépareraient une deuxième édition. Puis dire. En revanche, une mauvaise surprise, c'est le score de Je t'aime, etc. sur France 2 vendredi après-midi. L'émission de Daphné Burki était exceptionnellement en direct et consacrée à la Ligue du LOL. Daphné Burki revenait sur la façon dont elle en avait personnellement été la victime. Et ben seulement 492 000 téléspectateurs. L'émission normale dépasse les 600 000, donc on est 631 000 la semaine précédente. Donc,
ça n'a pas intéressé les téléspectateurs.
Non,
vous auriez pu le mettre dans. Oui, c'est une surprise, mauvais gadin, quoi.
Oui, c'est une mauvaise surprise.
En tout cas, bravo,
je veux dire.
Bravo au Palma Show, parce que c'était pas évident, avec un humour très décalé et visiblement. Enfin, moi, j'ai suivi un peu sur les réseaux sociaux.
Mais qui a très bien fonctionné auprès des jeunes, notamment.
Sur beaucoup de cibles. Ils ont atteint beaucoup de cibles. Y compris la ménagère.
Alors, on a en ligne avec nous Marie-Francine. Bonjour Marie-Francine.
Bonjour.
Bonjour. Alors vous avez regardé Les Années Bonheur, c'est ça ?
Voilà, tout à fait. Voilà, parce que c'était mon choix, parce que c'est vrai que je vois, ça me sort par la tête.
Ah bon, vous aimez pas ?
Je n'aime plus du tout. Au début, oui, au début, j'aimais bien. Et puis maintenant, le principe ne me plaît plus du tout, ne me convient pas. Donc, je préfère regarder Sébastien, qui, je passe toujours un bon moment avec cette émission. Voilà. Ouais. Et c'était bien. En plus, bientôt, c'est sa dernière émission. On va plus le voir après. Et moi, je regrette beaucoup. Parce que c'est quelqu'un qui est très bien, c'est un bon animateur. Il est vraiment formidable. Hein. Ouais. Et puis, il n'a pas la langue de bois, il dit ce qu'il pense. Et moi, j'adore les gens qui n'ont pas la langue de bois.
Oui, c'est bien. C'est bien. Voilà. Donc, écoutez, on est contente que vous ayez aimé. Voilà, c'est pas très clair, en fait, l'avenir de Patrick Sébastien et le nombre d'émissions qui lui restent, parce qu'il a un contrat. Il a un contrat jusqu'en juin, mais il semblerait que tout... Enfin voilà, on ne sait pas très bien ce qui va être programmé. Il n'y a plus que deux émissions d'animateurs d'ici son départ.
Absolument.
Voilà, c'est ce que je lis en ce moment même. Merci Marie-Francine.
En fait, on se rend compte qu'il stagne aux alentours de 2 millions, 2 millions 3, mais il ne descend pas en dessous. Donc il a un public qui n'est pas énorme, mais qui est très fidèle en fait, comme l'est
Marie-Francine.
Oui.
Alors, je ne sais pas pourquoi, Julien nous dit « Vous êtes pro-gilet jaune depuis le début, soyez plus objectif. » Ça, ce sera à 11h, Julien, on en reparlera.
J'en peux vous en parler quand même.
Gilles Le Zapping.
Sud Radio, le 10h midi, les médias, l'instant zapping.
Bon, je vais vous le faire écouter, c'est un peu court, mais évidemment, comment y échapper, la haine pure quand les gilets jaunes croisent le philosophe, académicien et juif, évidemment, Alain Finkielkraut. S'en suit un enchaînement d'insultes. C'est pour enchaîner le son suivant que je vous fais réécouter ce son, mais vous l'avez tous vu et tous entendu. Alors vous allez en parler évidemment.
Oui, on va en reparler à 11h.
À 11h, et pourquoi je vous passe ça ? Parce que c'est un événement de plus qui démontre la montée de l'antisémitisme. Rappelez-vous, la semaine dernière, les croix gammées sur le visage de Simone Veil. Et justement, samedi, sur France 5, dans C'est l'hebdo, il recevait un des fils de Simone Veil, Jean Veil. Et je vous ai laissé l'extrait dans sa totalité, parce que vous allez voir, les silences sont importants. tellement il est ému de parler de ce qu'il a vécu en voyant ses croix gammées sur le visage de sa mère.
Ce portrait de votre mère recouvert d'une croix gammée, quand vous l'avez vu, comment est-ce que vous avez réagi, Jean Veil ?
C'est pas très facile à dire. Moi, je me souvenais des Invalides, mais je me souvenais davantage encore du Panthéon où il y avait des milliers de personnes. Je reçois en permanence des lettres de gens qui me parlent de maman. Et donc, je suis plutôt comme maman. Mon père aurait été absolument fou de rage. Maman aurait dit, aurait pris ça plus sagement en disant « N'était-ce pas prévisible ?»
Voilà. N'était-ce pas prévisible. Comme vous l'a dit Rémi, vendredi, Daphné Burki était en direct pour crier sa colère face à la haine qu'elle a reçue à l'époque par la Ligue du LOL, un groupement de journalistes qui l'a harcelé sur Twitter.
Alors je précise pour ceux qui nous regardent et puis ceux qui me suivent peut-être aussi que j'ai travaillé pendant une année en 2012 auprès de Vincent Glade, celui qui a créé cette ligue du LOL, cette spirale selon laquelle il a considéré être totalement dépassé aujourd'hui. J'ai subi un harcèlement très violent, j'ai subi des menaces de mort à l'époque. Je n'ai pas porté plainte, je vous le dis aujourd'hui, parce que personne ne savait comment faire, personne ne savait quoi me dire et on me disait surtout à l'époque, c'est normal, c'est le jeu. Il n'y a pas de jeu en fait, ça a été un moment terrifiant de ma vie. Je vous en parle aujourd'hui sur ce plateau, je n'en ai jamais parlé même à mes parents, à ma famille ou à mes amis parce que je voulais évidemment les préserver. Je pense que c'était pas la bonne attitude, maintenant je me le dis, et c'est pour ça que cette émission aussi est importante pour moi. On va écouter différentes paroles de victimes et on va essayer de trouver des solutions. Mais j'ai invité Vincent Glade hier à venir sur cette émission et il n'a pas souhaité venir, pour que les choses soient claires.
C'est assez étonnant quand même, toute cette histoire de Ligue du LOL, je trouve, avec Vincent Glade qui travaille avec Daphné... En même temps sur Canal+, c'est plus étonnant parce que ce sont des journalistes qui sont d'habitude pro-Canal+.
Moi aussi, je l'ai contacté puisque j'ai ses coordonnées directes pour lui proposer de participer à l'émission. Il n'a non plus pas répondu.
Il vous a répondu ? Non, pas répondu. Non. Mais vous dites, c'est bizarre, des gens qui travaillent ensemble. Mais le journaliste Guy Birenbaum raconte qu'il invitait à déjeuner Vincent Glade et que dans le même temps, la Ligue du LOL le harcelait et l'insultait avec des propos d'ailleurs antisémites de façon assez régulière. Donc... ou comment comprendre la nature humaine, je ne sais pas.
Vous voyez, c'est un peu les réseaux sociaux qui, avec le fameux anonymat dont on parle tout le temps.
Ils n'étaient pratiquement pas anonymes, hein, pour la plupart.
Certains avaient pris quand même des pseudos, donc ils avaient et leur pseudo officiel, entre guillemets, et leur pseudo anonyme. Et donc, avec tout ça, on a déjà des phénomènes d'expression d'antisémitisme qui apparaissaient. Je pense que ça remonte à de longues années, la montée de ce phénomène.
Haine sur le plateau des Terriens du samedi sur C8, avec un échange très tendu entre Monia Cachemire, qui a enquêté sur les maisons closes face à une féministe qui avait déjà d'ailleurs fait son show sur le même thème dans Balance ton poste. Bah évidemment, ça a chauffé.
Dans l'écoute.
Non, mais attendez,
on a le droit de pas être d'accord.
Vous voulez qu'on
dire menteur.
Il faut que les femmes arrêtent d'être en colère poliment.
J'ai enquêté, je suis restée 3 semaines dans une maison close en Suisse. J'ai sympathisé avec de nombreuses prostituées. J'y suis allée parce que je suis féministe, avec un a priori en me disant elles sont là-bas parce qu'elles n'ont pas le choix. Et finalement, vous savez quoi ? J'ai rencontré des filles qui étaient là-bas. Elles étaient françaises, elles sont allées en Suisse pour travailler parce qu'elles voulaient faire ce métier.
Allons tout de suite sucer 60 bites dans un camp, dans un box de cheval et on va voir si c'est un métier.
Il n'y a aucun lien.
C'est impossible.
Laissez-moi terminer
mon propos. Vous connaissez.
Laissez-moi terminer mon propos.
Une passe, c'est une violence inouïe.
Quand on aura fini la dramaturgie, est-ce qu'on peut parler
non,
s'il vous plaît ?
Non, ce n'est pas la dramaturgie.
C'est la dramaturgie.
C'est vous qui êtes une
Molière, mademoiselle.
C'est vous qui êtes une Corée. La réalité de la situation.
Ça me fatigue, moi, ce genre de truc.
C'est un débat.
C'est
sûr que quand vous faites venir sur le plateau pour répondre à une enquête comme ça, cette personne que je ne connais pas, vous êtes assuré que vous allez avoir ça. Quoi.
Mais c'est évidemment ça qu'on veut. Voilà, c'est ça, c'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on cherche.
Bon, j'ai fait mon petit calcul.
Grande fatigue.
60 bits dans la journée, c'est un peu compliqué. C'est un peu exagéré.
Merci, Gilles, c'est frais le matin.
Ça se mange sans fin. Allez, un petit peu d'amour dans ce monde haineux, celui de Yann Moix envers Jean-Marie Bigard, qui, vous le savez, avait aussi choqué les féministes en mimant un viol avec une blague qu'on attend de Bigard. Et bien, Yann Moix a été son avocat de la défense.
L'humour doit être choquant, l'humour doit dépayser, il doit étonner, il doit surprendre, il doit choquer. Et c'est pas la blague de Jean-Marie Bigard qui devrait nous surprendre, nous étonner, nous dégoûter. C'est le viol qui devrait nous surprendre, nous dégoûter et nous survolter et nous mettre en colère. Et donc je voudrais défendre Jean-Marie parce que moi, c'est le viol que je déteste et non pas Jean-Marie Bigard et ses blagues sur le viol. Quand Chaplin incarne Charlot, il parle de la pauvreté. Aujourd'hui, il aurait tous les SDF dans la rue, mais ils y sont déjà, donc ça tombe bien. Qui dirait, c'est dégueulasse, il se moque des pauvres. Chaplin ne pourrait plus faire Charlot aujourd'hui, il faut le faire.
Coluche ne pourrait plus faire Coluche.
Rien. Donc un humoriste, à ses risques et périls bien sûr, fait ce qu'il veut. L'humour choquant n'existe pas. Ce qui existe, c'est l'humour raté. C'est ça qui est pire, car l'humour, comme la boxe ou l'histoire, ça ne supporte pas l'à peu près. Reprocher à Jean-Marie Bigard d'être vulgaire, c'est comme reprocher à Marcel Proust d'utiliser des imparfaits du subjonctif.
Oui.
Ça n'a aucun sens.
C'est vrai.
Et je voudrais aussi préciser que le verbe enculé est un très joli verbe, c'est un très joli mot, enculé. On le retrouve chez le marquis de Sade, chez Georges Bataille. Donc les indignés perpétuels commencent vraiment, mais vraiment, mais vraiment, comme disaient des proches, à nous escagasser le bas de l'oreille interne. Des proches qui pensaient lui aussi qu'un homme seul et vulgaire vaut mieux qu'une meute nombreuse et débile. Alors, vive les enculages, vive c'est les enculures,
bon.
Vive les enculeries.
Pour cet extrait, merci pour cet extrait, Gilles.
Non, parce que ça a choqué beaucoup de gens
qui
prennent la défense.
Surtout qu'il n'a pas prononcé ce mot-là dans sa blague, mais que j'ai vu. Donc,
non, puis il dit qu'il condamne le viol, il ne condamne pas les Bigard, mais en fait, Bigard, sa blague, c'est une blague qui raconte un viol. Donc, quand même...
C'est un peu tiré par les cheveux comme argumentation.
Ah voilà, c'était les zappings ce week-end.
Allez, on va se retrouver dans un instant pour parler d'un thriller politique, Fake News, qui paraît chez Robert Laffont, et c'est Michel Cotta et Robert Namias qui seront avec nous.
Sud Radio, le 10h midi, les médias. L'invité du jour.
Les invités du jour. On a un beau jingle, les invités du jour. Mais ils sont deux, Michel Cotta, Robert Namias, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être là. Deux grands journalistes, deux grandes voix. On peut aussi vous qualifier comme ça. Vous avez tous les deux été, entre autres, patron de la rédaction de TF1. Donc, ça va être intéressant de discuter avec vous de ce qui se passe en ce moment. Vous êtes là pour nous parler d'un thriller politique qui s'appelle Fake News, qui paraît chez Robert Laffont. Alors, c'est un thriller politique qui est vraisemblable. C'est terrible parce qu'il y a des choses qui sont, qui nous font penser à la réalité. Ce jeune président qui arrive au pouvoir contre toute attente, une opposition complètement désemparée. Et puis, avec les nouvelles technologies, les réseaux sociaux, il est déstabilisé par une puissance étrangère. Alors déjà, moi, j'avais envie de vous poser la question de la forme, parce que vous êtes tous les deux des journalistes. On vous attendait plutôt sur un essai sur le sujet.
Mais justement, c'est ce qu'on a voulu éviter. Parce qu'on s'est dit qu'un essai, c'était sûrement très bien, mais on n'était pas sûr que c'était vraiment mobilisateur. Et surtout, on a beaucoup plus de liberté quand on est dans un roman pour dire les choses et puis pour les prouver, pour les mettre en scène, justement.
Est-ce que le titre était trouvé dès le départ ou vous êtes arrivé à la fin ?
Complètement, oui. Alors, mais
parce que vous êtes vraiment dans l'actualité.
Oui, tout à fait. Et puis à un moment, d'ailleurs, parce qu'on a travaillé sur ce livre il y a déjà plus de pratiquement un an et demi maintenant, la rentrée de septembre 2017, et on parlait des fake news beaucoup, mais beaucoup moins qu'aujourd'hui, et il s'est imposé immédiatement. Le fait de faire un roman, ça nous permettait deux choses, tout à la fois de dire des choses sur la vie politique française, à travers notre expérience, mais sans que ce soit des mémoires, ce qui a priori n'intéresse pas grand monde, les nôtres en tous les cas, et donc ça nous permettait de réinjecter, si vous voulez, toute l'expérience que nous avions de la politique depuis 50 ans, sans pour autant nous y impliquer directement. Ça, c'est la liberté du roman, et puis surtout la liberté du roman, ça nous permettait effectivement d'imaginer une réalité qui n'est pas encore... mais qui est potentiellement probable et possible, en tous les cas, qui est une immense fake news, au-delà même des fake news du quotidien dont on parle aujourd'hui.
Bon, alors, c'est un roman. Oui, c'est un roman, d'accord, mais enfin, alors, je vais essayer. René Charrier, Gérard Larcher, quand même, Jacques Brière, c'est François Fillon, il me semble. Pierre Lasserie, on voit bien Laurent Wauquiez. Bougival, sans doute Gérard Collomb. Enfin, on reconnaît.
Je ne suis pas journaliste. François Berlot.
François Berlot, qui évidemment est Emmanuel Macron.
Absolument.
Simplement, là, pour le coup, il est marié avec une femme jeune. Donc,
oui,
c'est ça, vous avez voulu brouiller les pistes, c'est
oui,
ça
Oui, tout à fait, d'abord. Mais non, et puis c'était...
On est quand même dans la vie politique au quotidien, comme vous l'avez raconté dans vos carnets secrets.
Mais justement, ça nous paraissait...
Il y a des choses
dans ce climat-là, et dans cette atmosphère-là d'aujourd'hui, avec des personnages qui sont quand même un peu plus complexes.
Vous
dites que Gérard Collomb, c'est Le ministre de l'Intérieur, non, il y a un peu de fer, un peu de Pasqua. Enfin bon, on a essayé de... Mais justement, c'est qu'on voulait mettre dans la France, une France qui pourrait être celle d'aujourd'hui, un fake news énorme qui entraîne un certain nombre d'attentats, de morts, parce que c'est quand même un thriller. Alors, je ne sais pas si c'est... Mais mémoire, on dit bien que les hommes politiques sont des tueurs. Mais à ce point-là, non. Oui. Quant à fake news, vous avez posé la question.
Oui.
Effectivement, c'était un nom de code au début. Et puis après, on a essayé de chercher autre chose et on s'est aperçu que, franchement, le mieux, c'était fake news. Et franchement, on a eu du nez.
Mm-hmm. Ce qui est très fort dans votre roman, c'est que c'est vraisemblable. Et on se dit que ça pourrait être vrai, ça ne l'est pas évidemment, mais on sent quand même quelque chose, puisque vous dites évidemment, ça paraît aujourd'hui, ça fait un an et demi que vous y êtes attaqué, vous êtes pile dans l'actualité, ouais. Dans ce qui se passe, on parle de manipulation des gilets jaunes par des puissances étrangères, on parle des réseaux sociaux et de leur puissance, c'est assez troublant.
En fait, on a commencé à travailler dessus quelques mois après l'élection de Macron, après que Macron lui-même ait d'ailleurs dénoncé une éventuelle intervention des Russes sur sa propre élection, alors même qu'il était évident que les services russes étaient intervenus dans l'élection américaine. Ça, c'est très clair et ça ne fait quasiment aucun doute, notamment à propos de la candidature d'Hillary Clinton. Ce qui est certain aujourd'hui, c'est que, et c'est ce qu'on avait vu à l'époque, et puis on avait lu un certain nombre de rapports, on avait déjà enquêté, ce qui est certain, c'est qu'avec la technicité des services de renseignement qui sont aux mains et dont peuvent se servir à tout moment n'importe quel chef d'État, c'est bon. Les moyens informatiques, les moyens logistiques, la capacité de fabriquer des fake news à un niveau, encore une fois, qui n'a aucun rapport avec le fake news du quotidien,
c'est
pour déstabiliser économiquement, socialement, et bien évidemment, politiquement, ces moyens, maintenant, tous les services de renseignement les ont. Et ce qui nous a frappé, si vous voulez, c'est un certain nombre de rapports. Il y avait eu notamment un rapport remis de manière très confidentielle, qui d'ailleurs est passé relativement inaperçu, au ministère français de la Défense, qui indiquait que aujourd'hui, ces services de renseignement ont toujours un coup d'avance sur la défense. C'est-à-dire que l'attaque a toujours un coup d'avance. Et que le principe même de la fake news, c'est finalement de ne pas se présenter comme une fake news. Ouais. Et c'est notre polar.
Et c'est toute la difficulté que tout le polar, d'arriver à démontrer.
C'est le dénouement qui révèle que c'est une fake news. Mais pendant tout le polar, tout est crédible, y compris dans le roman lui-même.
Moi, je voulais savoir, est-ce que le héros, avec les moyens actuels, aurait pu être Jacques Chirac ou Mitterrand? Je veux dire, est-ce que le fait que ça soit un jeune président où Macron change les données?
Non, je pense que le fait qu'il soit jeune ou pas n'a pas d'importance. Simplement, regardez, quand on a oublié cette époque où il n'y avait pas de réseaux sociaux, finalement. Ouais. C'est-à-dire que je ne pense pas que François Mitterrand aurait échappé à des attaques sur sa vie privée s'il y avait eu des réseaux sociaux avant.
Oui,
je ne pense pas que Jacques Chirac... et puis, évidemment, c'est vrai que c'est les réseaux sociaux qui sont le début de l'influence du fake news, parce qu'il y a toujours eu des fausses nouvelles. On en a connu.
Mais la propagation,
quelqu'un me disait l'autre jour, la dépêche d'Ems, vous voyez, qui était une fausse dépêche, a entraîné la guerre de 1870. Ça, c'était un vrai fake news. Mais le problème de fake news, c'est que c'est multiplié à l'instant par des millions et des millions de gens, de tweets ou de Facebook, c'est ça le problème. Relais.
Allez, on se retrouve dans un instant avec Michel Cotta et Robert Namias pour parler de leur livre Fake News.
Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert.
De retour avec vous, on est ensemble jusqu'à midi sur Sud Radio, entre 10h et 11h, les médias, et on parle de Fake News, le livre de Robert Namias et Michel Cotta qui paraît aux éditions Robert Laffont. C'est un thriller politique, plus vraisemblable que nature, plus vrai que nature, j'ai envie de dire. Les chaînes d'info ne sont pas épargnées dans le livre, elles sont... même au cœur de la rapidité aujourd'hui, de la manière dont ces fake news sont colportées.
Elle multiplie aussi l'importance de la fake news, le rôle de la fake news, et elle touche des gens. Et en plus, en boucle, comme on l'a écrit, c'est-à-dire, et cette boucle permanente, évidemment, est de nature à déstabiliser encore plus quelqu'un qui est l'objet. d'un fake news.
Je voulais citer juste, vous voyez, c'est page 83. Quant aux enquêteurs, ils refusaient de parler, mais peu importait. De quart d'heure en quart d'heure, les reporters redonnaient les quelques rares informations obtenues, toujours les mêmes qu'ils égrenaient depuis l'annonce de l'assassinat. Bon, l'assassinat, je ne dis pas ce que c'est, parce que... Mais alors, il y en a plusieurs comme ça. Hein, vous dites aussi l'ogre médiatique, etc. Donc, oui, c'est une attaque en règle, quand même, des chaînes d'infos continues.
C'est une observation des chaînes d'infos, parce qu'en plus, depuis finalement l'écriture du livre, pas la parution, mais l'écriture du livre, y a les gilets jaunes quand même. Et on voit bien qu'il faut se poser des questions quand même sur les pratiques professionnelles de manière générale, d'ailleurs, à la fois évidemment des chaînes d'infos au premier chef, mais et de la presse de manière générale, concernant le phénomène, ce qu'on appelle l'effet loupe pour les chaînes d'infos, et puis le phénomène d'amplification de manière générale. Mais ce qu'on a voulu montrer, c'est que également, dans ce roman, personne n'est épargné, notamment par le fait que les fake news peuvent être concernés n'importe qui sans qu'on s'en aperçoive et sans qu'on le détecte. Dans notre livre, ça commence par une publication dans le Canard enchaîné qui lui-même, d'une certaine manière, alors ils ne seront peut-être pas très contents, mais qui lui-même est le premier... victime de la fake news qui est montée et qui est au cœur de notre ouvrage et qui est reprise ensuite par les enquêteurs du journal L'Univers. Suivez mon regard, évidemment.
Les grands journalistes.
Donc, le plus grand journal de France et l'un des plus grands du monde. Et avec des très grands reporters, dont une qui s'appelle Blanche Dubois, qui n'est pas non plus très différente d'un certain nombre de grands reporters du journal que l'on imagine.
Il y en a deux qui travaillent ensemble.
Voilà, absolument. Ouais. Et elles aussi, finalement, d'une certaine manière, elles sont peut-être pas très contentes, mais c'est une réalité. La fake news est tellement bien montée, techniquement, qu'elles se font avoir. Et elles sont persuadées d'avoir tout vérifié, tout décortiqué, et finalement, elles se font avoir.
Donc c'est une critique des médias, quand même.
Ah oui, c'est
une critique de tout le monde, c'est surtout...
On a voulu faire la critique des médias, c'est vrai, mais ces médias, on en fait partie, tous les
jours. Bien sûr.
Et on y participe.
Mais ça a changé.
On y participe.
Mais ça a changé, quand même.
Donc on voit bien, au fur et à mesure, on voit bien jusqu'où les choses peuvent aller, jusqu'où elles peuvent déraper, et on voit bien aussi qu'une réflexion sur notre métier est nécessaire, et d'ailleurs, je remarque que dans toutes les chaînes, en ce moment, TF1, France 2, il y a bien des émissions qui se mettent en route pour distinguer le vrai du faux. La fin, le problème, c'est la différence entre le vrai et du faux.
Oui, mais sauf que parfois, on ne vous croit pas. Moi, je le vois quand on énonce des choses. On nous dit non, vous êtes, vous, journaliste, vous êtes... Enfin, il y a la défiance face aux journalistes.
Ça a énormément changé. La défiance des journalistes aujourd'hui, c'est... On est dans les professions les plus détestées de France.
Oui, c'est compliqué parce que... c'est vrai que cette défiance existe, elle a toujours en réalité existé un peu plus maintenant, mais c'est vrai que ce qui déstabilise la confiance dans les médias, c'est la confiance aveugle que les followers ou les innombrables amateurs de réseaux sociaux accordent à ce qu'ils lisent sur les réseaux sociaux.
Ouais.
Et ce qu'ils lisent sur les réseaux sociaux maintenant est quelque chose qu'ils prennent au premier degré. Avant même de mettre en question et avant même de se reporter à la presse. Et notre problème à tous les journalistes, maintenant, il est là. C'est-à-dire que on ne peut pas empêcher cette première lecture des tweets. Mais en tout cas, à un moment donné, il faut dire attention. Parce qu'en plus, ce qui est très dangereux dans les tweets, c'est que chacun choisit les tweets qui sont proches,
ceux qui ont envie de
chacun s'enferme dans une bulle. Et s'enfermant dans une bulle, ils en critiquent d'autant plus les journalistes qui ne font pas partie de la bulle.
Mais vous ne pensez pas qu'il y a quand même une évolution? D'accord, ça c'est une responsabilité des tweets et des réseaux sociaux. Est-ce qu'il n'y a pas une responsabilité des journalistes eux-mêmes ou des médias dans la décrédibilisation des médias? Alors bon, on a le côté chaîne info où on sait que maintenant c'est dirigé avec des... on connaît l'audience en instantané, donc les directeurs de rédaction vont dire ça marche, on voit qu'à la seconde ça fonctionne quand on couvre la manif des gilets jaunes, même s'il ne se passe rien, tant pis, on fait de l'audience, donc restons là-dessus. La crise, elle vient de là aussi.
Mais moi, je pense que la responsabilité des journalistes, elle est tout à fait réelle. Vous savez,
pas
la course à l'audience, c'est une réalité. Voilà,
que vous connaissez bien.
Que nous avons connu.
Et en famille.
Mais qu'on a connu dans des conditions et un contexte extraordinairement différent.
Bien sûr,
c'est-à-dire que nous-mêmes, quand nous dirigions des grandes chaînes de télévision comme TF1 ou France 2, c'est vrai qu'il y avait une course à l'audience, notamment pour les journaux télévisés. Sauf que je vous rappelle qu'il y avait, qu'il y a toujours d'ailleurs, deux journaux par jour à 13h et 20h. Donc vous aviez encore, non plus en boucle tous les quarts d'heure, la nécessité de diffuser et de rediffuser l'information. Vous aviez quand même quelques heures pour prendre du recul, vérifier et installer une information qui était quand même crédible.
Et puis il y avait plus de filtres aussi, c'est-à-dire des chefs d'édition, plus de personnel.
Voilà, donc,
et des visionnages de sujets avant la diffusion.
Honnêtement, je pense que la défiance dont vous parlez, qui est une défiance à l'égard des médias, mais qui est une défiance à l'égard des politiques, qui est une défiance à l'égard de
les élites,
les institutions, mais qui est aussi une défiance à l'égard de soi-même. Ce qui est terrible, avec notamment cette crise des Gilets jaunes, ou ce mouvement des Gilets jaunes, appelons-le comme on veut, c'est qu'on est en effet rentré dans l'ère d'une défiance généralisée. Enfin, quand vous voyez ce qui se passe entre eux, ce qui s'est encore passé hier à l'égard de Ingrid Levavasseur, la défiance, elle est absolument généralisée. C'est-à-dire que tout le monde conteste tout le monde. C'est-à-dire qu'on est rentré, non plus même dans l'ère de la défiance, mais dans l'ère du complotisme, où chacun pense que l'autre ment en permanence. Bon, et ça... Honnêtement, moi je suis assez pessimiste, je vous le reconnais. Il faudra énormément de temps pour en sortir. Mais pour en revenir aux médias et répondre très directement à votre question, je pense que la responsabilité des médias, elle est claire et qu'il faudra qu'ils reconnaissent qu'il faut retourner aux fondamentaux qui sont simplement, et ce sera toujours la différence avec les réseaux sociaux, la vérification. Alors effectivement, dans notre thriller, on va plus loin puisque on dit que même vérifier, l'info quand même vous absorbe et vous enveloppe. Il reste quand même que la vérification. Moi j'ai été très frappé, si vous voulez, et ça induit forcément la différence. J'ai été très frappé par le fait que pendant 2 mois, puisque nous en sommes au 3e mois du mouvement des Gilets jaunes, pendant 2 mois, on a fait venir des gens sur les plateaux sans du tout se préoccuper, même professionnellement, de savoir qui on invitait. Ça, c'est tout à fait extraordinaire. Tous ceux dont on définit aujourd'hui le Pédigré, les Drouet, les Maxime Nicole, les Chalençon et autres, avant même qu'on sache d'où ils viennent, qui ils sont, quelle est leur couleur politique, etc., on les a mis sur les plateaux et on les a laissés déverser n'importe quoi pendant des heures. Et là, effectivement, dans ce cas, moi je comprends très bien qu'il y ait une défiance à l'égard des médias.
Alors, pour revenir à votre roman, ce qui est intéressant aussi, donc, c'est pas seulement le montage d'un fake news dont on s'aperçoit qu'il est tout à fait possible avec un informaticien génial. Donc c'est le montage de la fake news. Et puis c'est la façon dont on parle de fake news comme ça. Il y a des petits fake news, mais là c'est un gros fake news et on voulait montrer donc qu'un État tout entier pouvait être déstabilisé. Et évidemment, c'est ça qui pose problème. C'est pas un petit fake news sans importance, un gros fake news. C'est... Et alors, ce qu'on voulait dire aussi, c'est qu'il n'y a pas de réponse à ce fake news. Personne n'est capable, ni les journalistes, etc. Et que ce serait passé pour de la vérité si quelqu'un n'était intervenu de l'extérieur, un lanceur d'alerte, en disant, attention, enfin, la personne même qui avait fait le fake news a pris la parole pour dire, j'ai fait un fake news. Mais sinon, il se serait tué.
Deuxième aspect, regardez la guerre du Golfe, elle a démarré avec un fake news.
Bien sûr.
La guerre du Golfe et toute l'histoire et les retentissements qu'on a eu dans le monde commencent par les Américains qui annoncent qu'il y a une centrale nucléaire qui appuie dessus. Et c'est pour moi la plus grosse fake news, le premier gros fake news qui a changé le monde.
La deuxième guerre du Golfe, celle de 2003. Alors là, il se trouve que je l'ai vu hier. Je conseille à tous ceux qui nous écoutent d'aller le voir, c'est Vice, le film qui est une espèce de biopic admirable d'ailleurs, et en plus sur le plan cinématographique c'est extraordinaire,
Dick Cheney,
le vice-président américain dont on semble montrer dans ce film qu'il était le véritable patron, y compris de George Bush, W. Bush, le deuxième Bush, et qui montre très bien, mais ça maintenant c'est tout à fait connu, effectivement, la première fake news, mais d'une ampleur qui génère tout ce que l'on vit depuis 15 ans. Parce que ça fait quand même 15 ans, Daesh, etc., qu'on vit sur la guerre d'Irak déclenchée en mars 2003. Parce qu'effectivement, il y a eu l'accusation menée par Dick Cheney et Colin Powell devant l'ONU de preuves qui auraient montré l'existence d'armes de dissuasion nucléaire en Irak, alors qu'elles étaient des pièces entièrement fabriquées.
C'est-à-dire que finalement, notre roman par rapport à ça, c'est de l'eau de rose. On se débarrasse, non, je plaisante, on se débarrasse d'un président. On tue beaucoup de monde ce faisant.
Vous êtes la nouvelle Barbara Cartland.
Et alors, ce qu'on voulait dire aussi, c'est que le sort de ce président, qui sort blanchi à la fin, in fine, tant pis si on raconte le roman.
Pas trop quand même.
Bon, pas trop, attention.
Mais le sort de ce président, est-ce que quand on a fait l'objet pendant des mois,
il en reste quelque chose.
Fake news. Est-ce que vous croyez qu'on peut être complètement blanchi de quoi que ce soit ?
C'est la suite, d'ailleurs, parce que nous sommes déjà en train de
faire la suite. Voilà, c'est ce que d'ailleurs, on comprend qu'il va y avoir une suite à la fin de celui-là.
Qui sera d'ailleurs vraisemblablement beaucoup plus noire encore que ne laisse
l'actualité. L'actualité.
Parce que vous voulez vous rapprocher de la réalité, c'est pour ça.
Moi, j'avais une question d'actualité à Robert Mamias. J'ai lu votre bio, que je ne connaissais pas pour préparer l'émission, et vous êtes petit-fils d'un marchand de tissus juifs. Donc forcément, ce qui s'est passé avec un fickel Croûte, ça doit faire bizarre au fils du petit marchand de tissus juifs.
Ah oui, mais moi je suis dans un état et de colère et de rage contre tout ce qui se passe actuellement et je considère, je vous le dis honnêtement, que même une manifestation, c'est très bien de faire une manifestation comme celle qu'on fera demain soir à la République, mais c'est pas le problème. Le problème c'est de montrer qu'on veut vraiment lutter contre l'antisémitisme mais aussi contre tous les racismes. On nous reproche souvent, moi on me reproche souvent, de parler d'antisémitisme et de ne pas évoquer les profanations des églises, etc. Mais je crois que c'est contre tous les fanatismes qu'il faut se battre. Mais par exemple, moi je suis quand même très étonné quand j'entends aujourd'hui le ministre de l'Intérieur ou son secrétaire d'État nous expliquer qu'on a reconnu sur la photo ce monsieur, etc. Et qu'on va maintenant le rechercher. On pouvait pas l'arrêter tout de suite. Moi j'ai vu des tas de policiers, alors c'était peut-être pas leur rôle, c'est possible, j'ai vu des tas de policiers. Moi, j'ai suivi le mouvement samedi. Il y avait des colonnes, évidemment, de gendarmes mobiles et de CRS qui accompagnaient, etc. Au moment où Finkielkraut sort de chez lui, on voit qu'il est protégé par les policiers. Aucun d'eux ne pouvait intervenir et s'approcher de ces types qui vociféraient des insultes et des injures de toute nature.
On peut poser la question sur les blagues. Sur le type qui, la semaine dernière, a caillassé tout le long de son passage jusqu'à brûler la voiture Sentinelle. Genre, tout le monde les a filmés, etc.
Michel. Je voulais juste dire un mot. C'est pas parce que son grand-père ou son père est juif que ça le concerne particulièrement.
Bien sûr, je considère
que je suis autant concerné.
Absolument, évidemment.
Je faisais un lien.
Évidemment, non, mais justement. Et d'ailleurs, c'est très important. C'est presque que la lutte contre l'antisémitisme, c'est une cause nationale. Nationale, c'est pas une cause communautaire.
Non, mais c'est le fanatisme qu'il faut dénoncer de toute nature.
De toute nature.
Parce que là, on voit bien que c'est sans doute un antisémitisme qui est islamiste. Faut dire les choses comme elles sont.
Très inquiétant.
Il y a différentes formes d'antisémitisme. Le plus prégnant aujourd'hui est sans doute l'antisémitisme islamiste, il faut le dire. Ouais. Et effectivement, il y a tous les fanatismes qu'il faut dénoncer. Ouais. On est dans une société qui est très, très, très fracturée aujourd'hui, très déchirée. Mmh. Et notre roman, qui n'est qu'un roman, effectivement, esquisse tout ça vers un deuxième tome qui, lui, décrira
deux remarques d'auditeurs. Ouais. Anne nous dit, en gros, pour Robert Namias, il faut sélectionner les gilets jaunes qui passent sur les plateaux en fonction de leur pédigré, qui détermine la génétique politiquement correcte.
C'est pas ce qu'a dit Robert Namias. C'est pas du tout ce que j'ai dit. J'ai dit simplement qu'il faut dire qui ils sont. Après, à chaque média de savoir s'il l'invite ou pas. Simplement, on a eu pendant des semaines et des semaines sur des plateaux des gens dont on ne savait pas qui ils étaient. C'est quand même normal de savoir qui vous invitez.
Et autre remarque de Xavier qui nous dit, rappelons qu'il a fallu des années pour que les médias commencent à s'interroger sur la fake news qui a mené à la guerre d'Irak, et c'est ça entre autres choses qui fait que l'immense majorité des Français aujourd'hui ne croient plus la parole des médias.
C'est ce que vous dites aussi.
Ouais. Michel Cotta, Robert Namias, merci d'être passé ce matin sur Sud Radio. Fake news, c'est un roman, un thriller politique qu'on ne lâche pas, franchement. C'est
un roman.
C'est un roman.
Avec des clés.
Et on attend On attend la suite avec impatience. Merci à tous les deux. On se retrouve dans un instant pour parler d'un documentaire qui va être diffusé ce soir sur France 2 dans le cadre d'Infrarouge. Très important documentaire.
Demain soir.
Sud Radio, 10h midi. Valérie Expert.
Avec vous sur Sud Radio, on est ensemble jusqu'à midi, 10h, 11h, les médias. L'actualité, ce sera demain. Peut-on changer l'enseignement en banlieue ? Marie Bonhomme, bonjour. Bonhomet, pardon, vous êtes réalisatrice. Et on a Mathilde Lévesque avec nous, bonjour. Vous êtes professeur de français à Aulnay-sous-Bois. Demain, donc, France 2 va diffuser, alors très tard, jeudi, donc je suis. Alors, on précise qu'il y a le replay. C'est devenu très pratique, le replay. C'est un documentaire qui a été sélectionné au festival de Luchon. Apprendre à ses élèves à penser librement, à argumenter, à avoir confiance. Peut-être, c'est à vous, Marie Bonhomet, que je vais poser la première question. C'est comment est-ce que vous avez pourquoi vous avez eu envie de réaliser ce reportage ?
Écoutez, à l'origine, donc, c'est une réalisatrice de 17 juin Productions, donc la société qui a produit ce documentaire, qui a découvert Mathilde Lévesque à l'occasion d'un article qui lui était consacré. Et je pense que très vite, elle a senti qu'il y avait quelque chose de différent, d'abord lié au charisme de Mathilde Lévesque, et puis voilà, la façon dont elle a abordé son enseignement, la relation qu'elle avait avec ses élèves. Et donc, elle m'a proposé de mener à bien ce projet, et évidemment c'était pour moi évident qu'il fallait faire quelque chose, parce que on connaît tous un peu les images qui sont souvent associées aux établissements scolaires de zones dites sensibles, et c'est vrai que voilà, on a souvent en tête des images de jeunes profs envoyés dans les banlieues malgré eux et qui n'ont qu'une envie, c'est de repartir, qui sont au bout du rouleau, et des élèves qui sont indisciplinés, pas forcément très intéressés, et là on proposait quelque chose de vraiment, vraiment différent, quoi.
Mathilde Lévesque, je me souviens, je crois que je vous avais reçu, en tout cas, je sais que j'avais lu votre livre, LOL, qui était absolument passionnant. Vous êtes donc dans un lycée qui est un lycée prioritaire, d'éducation prioritaire, et vous êtes une enseignante quand même assez particulière. Non, mais je dis particulière parce que vous avez décidé de jouer avec vos élèves, de leur montrer l'intérêt de la langue française, l'intérêt surtout de savoir s'exprimer pour pouvoir exprimer des idées.
Oui, disons que c'est d'une part conforme à ma personnalité, à mon rapport aux gens en général. Je déteste le conflit, et donc il fallait bien que je puisse concilier ma volonté d'être enseignante et absolument aucune envie de faire de la discipline au sens où on l'entend. Ouais. Donc ça tombe plutôt bien. Et effectivement, voilà, moi je trouve avec ces élèves-là, avec mes élèves, le moyen de concilier mes études qui portaient sur la rhétorique, la grammaire, la langue française, et puis les jeux de mots et l'esprit qui me semble être des qualités indispensables.
Mais chaque année, c'est une nouvelle rentrée, chaque année de nouveaux élèves. Comment est-ce que vous vous apprivoisez? Comment est-ce que les élèves, est-ce que vous êtes la prof qu'il faut avoir aujourd'hui au lycée d'Aulnay?
Alors, au lycée d'Aulnay, en tout cas, où je connais mes collègues, je suis pas la prof qu'il faut avoir. On travaille vraiment beaucoup ensemble, et donc je me considère pas. J'ai juste la chance d'avoir la parole, mais je me considère pas forcément comme particulière ou exceptionnelle. Et puis, chaque rentrée, oui, c'est différent, et c'est ce qui fait la beauté de notre métier, c'est que chaque année, on repart de zéro, et on doit tout recommencer. Et il y a peu de métiers. On a la chance de faire ça.
Rémi,
On est assez impressionné en regardant le documentaire qui s'est étalé sur une année, hein, c'est ça ?
C'est ça.
Entre la façon dont les élèves s'expriment au début, puisqu'en fait l'idée c'est qu'ils vont participer au concours d'éloquence, où on se dit c'est vraiment difficile. Enfin, je vois CR par exemple qui veut devenir avocate, dit avocat c'est vieux, c'est guêde, mais c'est bien. Enfin bon, il y a plein d'expressions comme ça. Et la façon dont ils s'expriment et ils font leur petit texte à la fin, c'est impressionnant l'évolution.
Oui, en tout cas de mon point de vue, c'est vrai que on sent bien dès le départ, c'est des adolescents, hein, donc ils ont assez peu confiance en eux, ils sont très soucieux du regard des autres, pas forcément très à l'aise. Et puis aussi, je pense que c'est des adolescents qui ont conscience, enfin, on en a parlé plusieurs fois avec eux, mais qui disent, ils ont conscience de l'image aussi que parfois qui est un petit peu qui leur colle à la peau. Hein. Ils parlent aussi des élèves des beaux quartiers parisiens. Je pense qu'il y a aussi un sentiment parfois de pas être entendu voilà, à leur juste valeur. Et justement, Mathilde Lévesque, par ce concours, leur a donné confiance en eux, je pense, tout simplement. Hein. C'est-à-dire la capacité à exprimer correctement et
une pensée, à argumenter et à voir les faits que ça produit quand on est capable et à être entendu parce qu'on est entendu.
Mais moi, je voulais savoir, Mathilde, si je vous dis que ma Rome a le somme, ça fait partie de la langue française maintenant ou pas du tout pour vous ?
Bah, c'est-à-dire que plus personne dit ça, par contre.
Ah ouais,
c'est totalement ringard.
Vous avez compris le sens de ma question,
c'est
Mathilde.
C'est comme les Jones.
Oh là, moi, je ne vais pas venir dans votre classe.
C'est comme les Jones, ça ne se dit pas comme
Je sens que je vais être près du radiateur.
Ça se dit plus.
Mais tout fait partie. C'est toujours la question de la norme et de l'usage. Hein. Tout fait partie de la langue française dès lors que ça permet de communiquer entre plusieurs personnes. Et vraiment, enfin, moi, je heureusement que la langue n'est pas figée. Hein, sinon, on s'ennuierait à mourir. Et effectivement, ma Rome ne dit pas la même chose que ma mère. Ouais. Moi, quand j'avais une vingtaine d'années et que ma mère était très fière elle-même que je l'appelle ma Rome, ça instaure un autre lien que de dire ma mère ou que de dire maman. On voit bien les gens qui, en parlant de leurs parents, disent maman ou papa en parlant d'autres gens, même quand ils sont adultes, ne disent pas la même chose que lorsqu'ils disent ma mère ou mon père. Elles ne disent pas la même chose que mon daron, ma daronne, ma Rome. Ça dit du lien aussi.
Moi, je voulais vous demander, on voit surtout les filles dans votre concours d'éloquence. On voit bien qu'il y a des garçons qui s'expriment dans le cours, mais en fait, c'est surtout les filles. Parce que les garçons, ils n'étaient pas d'accord pour se laisser filmer pendant ces concours d'éloquence.
Il y a 4 élèves hein, sur 30 qui ne voulaient pas être filmés seulement. Les autres ont toujours été dans la caméra. Le concours d'éloquence n'est pas du tout le centre, et je crois que oui, Marie dira la même chose, du documentaire. En fait, finalement, il n'y avait que 3 élèves de ma classe qui étaient concurrentes. C'était un concours interclasse.
Qui a été sélectionné.
Voilà, ils étaient 3 sélectionnés sur les 30. Et quant à la différence, disons, genrée, c'est parce que ça c'est certain. En seconde, il y avait une vraie différence de maturité. Et les garçons sont moins sélectionnés, et ce, tous les ans, parce qu'ils ont plus de difficultés avec l'endurance et l'opiniâtreté. Voilà, ce qui s'inverse très vite en première. Mais en seconde, il y a vraiment une différence dans l'investissement. Les garçons sont plus présents en classe. CR, on la voit très peu intervenir en classe. Hein. Les filles sont peut-être un peu plus dans cette classe-là, en tout cas, sont moins visibles, certaines en tout cas, et ceux qui sont plus visibles pendant les cours sont pas ceux qui se sont trouvés sélectionnés pour le concours. C'est ça qui est chouette aussi.
Oui. Je précise qu'il y a un livre qui va paraître, La tête haute, guide d'autodéfense intellectuelle, faites-vous respecter. Ça, c'est dans la suite logique de ce que vous apprenez à vos élèves ?
Alors c'est pour moi quelque chose un livre important parce que c'est le premier qui ne parle pas de mes élèves exclusivement, voire quasiment pas. Mais voilà, c'est un livre qui apprend qui espère apprendre aux gens qui ne se sentent pas autorisés à prendre la parole, parce que ce sont des femmes, des minorités ou tout simplement des gens timides, à apprendre à décrypter les discours de manipulation et d'agression chez les autres pour pouvoir se positionner face à eux. Et c'est effectivement dans un contexte très précis que j'essaie d'apprendre à mes élèves. Oui.
Marie Bonhomé, qu'est-ce que vous avez retenu de cette année, vous, avec Mathilde Lévesque et sa classe ?
Moi, je pense que ce que je dirais, c'est la façon dont Mathilde Lévesque enseigne à ses élèves, c'est-à-dire que on n'est pas dans la position d'un enseignant omniscient qui
il y a de la sophrologie.
Oui, alors déjà ça, c'est vrai que il y a tous ces ateliers là qui oui. permettent effectivement d'abord de nourrir la curiosité, d'ouvrir l'esprit des adolescents. Et puis je pense aussi que tout simplement, on voit bien d'abord que je pense que les élèves sentent que Mathilde Lévesque aime son métier. Oui. Respecte.
Il y a de l'échange, il y a de l'interaction, c'est un rapport différent qu'elle instaure.
Oui, et puis en retour, effectivement, ses élèves lui rendent bien aussi, parce que je peux vous dire que je tiens à le préciser, parce qu'il y a évidemment du montage, on a passé un an à filmer, on peut se dire qu'on a sélectionné certaines séquences en particulier, qu'on a laissé de côté des moments où il y aurait eu des problèmes d'indiscipline, etc., ce qui a été absolument pas le cas, c'est-à-dire que on n'a jamais assisté à un problème de discipline dans cette classe tout au long de l'année.
En fait, l'humour est toléré, enfin, il y a des choses, il y a des choses, il y a
y a des sorties extraordinaires. Il y a notamment Sarah qui dit, qui parle d'une de ses copines et qui dit elle croit la vie c'est gaufrette. Alors j'ai appris cette expression. La vie c'est gaufrette, ça veut dire c'est bisounours.
Quoi. Exactement. Non, c'est ça. Il y a beaucoup de, c'est très réjouissant. Il y a beaucoup de plaisir dans cette classe. On sent que dans les échanges il y a des joutes verbales, beaucoup de complicité. On s'amuse et c'est comme ça. Je pense que effectivement les cours se passent bien et que les élèves apprennent et retiennent. C'est le fait de s'approprier le savoir. Mathilde en parle souvent. Le fait de pouvoir s'amuser aussi en apprenant et c'est cette complicité là, elle est assez rare, je pense, entre
professeurs et ses élèves. Qu'elle pourra servir d'exemple.
On espère aussi.
Voilà, donc à ne pas manquer demain soir, donc dans le cadre du magazine Infrarouge présenté par Marie Drucker, jeudi, donc je suis. Le livre de Mathilde Lévesque, La tête haute, va paraître aux éditions Payot le 6 mars prochain. Si vous n'avez pas lu LOL, je vous conseille vraiment de le lire parce que c'est tout à fait intéressant, justement, sur la richesse et la vivacité de ces élèves. Et ça montre une autre image, c'est vraiment la vertu aussi de ce documentaire, c'est de montrer, de sortir un peu des idées reçues sur les classes d'éducation prioritaire. Merci à toutes les deux. On va passer aux 30 secondes pour convaincre.
Sud Radio, le 10h midi, les médias. Vous avez 30 secondes pour convaincre.
Alors Valérie, c'est parti ce soir pour l'épisode 3 et 4 de Zone Blanche sur France 2 à 21h. L'histoire des habitants d'une ville qui sont la cible d'attaques meurtrières d'abeilles. Et Delphine Garnier, spécialiste des dérèglements environnementaux, a été missionnée pour aider et prêter main forte aux autorités locales. On a téléphoné à Mathieu Missoff, le créateur de la série en personne, et on lui a donné 30 secondes pour nous convaincre de se brancher ce soir sur France 2.
Bonjour à tous, la saison 2 de Zone Blanche arrive enfin sur France 2. Zone Blanche, c'est une série française qu'on a voulu intense et spectaculaire. On vous propose un voyage vers une petite ville entourée par une forêt étrange. Vous y trouverez des abeilles folles, des corbeaux, des loups, de la mythologie celtique et même un trésor. Notre héroïne Lauren Weiss enquête dans cet univers magique menacé par l'homme, mais la nature n'a pas l'intention de se laisser faire et quelque chose se réveille au fond des bois. Alors si vous avez envie d'aventure et de frissons, Zone Blanche c'est pour vous et c'est sur France 2 le lundi à 21h ou en replay sur France.tv.
Voilà, bon, donc ce sera ce soir. Pas le temps pour les paris, mais il y a plein de choses.
Sam, dernier épisode de Sam.
Faut pas rêver, Mario, premier regard. Allez, on se retrouve demain avec vous pour les médias et dans un instant pour la suite de l'actualité.